Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, l'Égypte avec le décès de Mohamed Morsi.
Oui, vous l'avez entendu, pas de funérailles nationales pour l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, mort brutalement lundi en cours d'audience au tribunal. Président destitué en 2013 par l'actuel président Sissi à l'époque générale, ex-candidat des Frères musulmans, qui disparaît presque 7 ans jour pour jour après avoir annoncé une renaissance égyptienne sur des bases islamique. Ni fleurs ni couronnes finalement. Le mouvement est-il pour autant mort au Moyen-Orient? Pas sûr. On en parle avec vous. François Burga, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes politologue, directeur de recherche au CNRS et à l'IRMAM d'Aix-en-Provence, auteur de Comprendre l'islam politique en 2016. Alors, Mohamed Morsi, c'était le premier président démocratiquement élu de la République arabe d'Égypte. Il a été enterré très discrètement, on peut dire, dans la banlieue du Caire, sans journaliste. La presse, pas invitée et qui ne mentionne pas son statut d'ancien président. Ça veut dire que c'est un mort qui n'a plus de partisans ou qui est trop embarrassant?
J'opte pour la seconde hypothèse, évidemment. Si on tient absolument à l'enterrer discrètement, c'est qu'on craint encore de possibles mobilisations populaires qui seraient intolérables pour le qu'il a, on va pas dire assassiné, mais enfin qu'il a gardé dans l'isolement absolu depuis 2 ans. On sait qu'il n'avait même plus de matelas dans sa cellule, il n'avait pas de traitement alors qu'il était diabétique et qu'il avait de l'hypertension. Donc, bien sûr, le régime est content peut-être de cette issue, mais n'ose pas véritablement l'afficher.
Alors, on va revenir aux conditions de son enfermement qui ont été beaucoup dénoncées à l'annonce de sa mort. Encore une fois, sur les conditions de son enterrement, est-ce qu'il y avait vraiment un risque, comme on a pu le lire, que Mohamed Morsi soit une sorte de martyr, que l'endroit où il soit enterré soit finalement un lieu de culte?
Ah oui, ça, Morsi sera un martyr. Morsi mort est plus fort que Morsi vivant, parce que Morsi, sans enlever rien à son sacrifice, n'était pas l'alpha et l'oméga du courant politique. Il a été un candidat de rattrapage, puisque celui qui avait été choisi par la confrérie a été invalidé par l'establishment militaire. Assurément, la mort de Morsi, c'est la naissance d'un symbole très fort qui est la partition du régime égyptien, bien sûr, mais je crois qu'il faut y venir très vite. Vous avez dit ces conditions de détention ont été dénoncées. Non, moi, j'ai jamais entendu dénoncer ces conditions de détention par quiconque de ses interlocuteurs occidentaux. C'est bien ça le problème. Nous avons parfaitement toléré, nous avons banalisé. Vous me direz, c'est la 4e fois qu'un leader des Frères musulmans meurt en prison dans l'histoire contemporaine de l'Égypte. Mais disons, nous avons banalisé cette situation. Nous avons honoré sur la scène internationale celui qui a enfoncé le dernier clou dans les espoirs révolutionnaires de la population égyptienne.
Et alors, quand le parti Liberté et Justice, qui est donc le parti dont il avait été président, parle de meurtre caractérisé, ou que les Frères musulmans, eux, parlent de meurtre à petit feu, est-ce qu'on peut savoir réellement de quoi il est mort? Est-ce que c'est à cause de ces conditions de détention, comme peuvent le dire certains de ses avocats?
Ça, je ne le sais pas. Je sais que moi-même, souffrant d'un petit peu trop de glycémie, j'aimerais pas qu'on me prive, par exemple, du traitement qui permet de la réduire. Et les gens qui souffrent d'hypertension savent bien qu'on ne plaisante pas avec ça. Mais il faudrait qu'il y ait une enquête. Il n'y en aura peut-être pas. Il n'y aura peut-être pas d'autopsie, puisque précisément le régime s'y oppose. Mais on a tout de même de solides raisons de penser que le gouvernement a directement contribué à l'élimination physique. Mais l'élimination physique ne veut, malheureusement pour lui, pas dire élimination politique. Je pense que le maréchal Sissi a sans doute raté cet épisode de sa campagne de communication, y compris avec l'environnement occidental.
Et en tout cas, le commissaire aux droits de l'homme de l'ONU a appelé à une enquête indépendante. Alors, vous parliez des Frères musulmans égyptiens, précisément, donc 4 d'entre eux, vous disiez, morts en prison. Le mouvement lui-même, un peu moribond, on peut dire. Je crois qu'il y a eu 1200 jugements, 529 condamnations à mort, un certain nombre de condamnations à perpétuité également. Quel effet, cette mort pourrait avoir sur le mouvement, qui lui-même n'est pas très en forme, disons?
Plusieurs milliers d'assassinats et 60 000 prisonniers politiques. Hein. Prenons juste quelques dizaines de secondes pour dire que parmi les prisonniers politiques, il y a ces jeunes gens de ce mouvement Tamaroud, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était chéri des mouvements occidentaux, des médias occidentaux, parce qu'il appelait à la chute de Morsi et à la venue de l'armée au nom d'idéaux de gauche. On sait maintenant que c'est la sécurité militaire qui a créé le mouvement Tamaroud et les militants de Tamaroud sont aujourd'hui en prison avec Morsi. Vous me dites le mouvement est en mauvaise santé. Attention, ne confondons jamais l'affaiblissement organisationnel d'un courant politique qui est soumis à une répression totale et sa capacité latente de mobilisation. L'histoire est faite, vous savez, de ces annonces. Moi, depuis 30 ans, on me sollicite pour commenter l'ultime défaite des islamistes dans cette région du monde, hein, parce qu'ils ont un leader qui a été emprisonné ou ils ont perdu. Et puis, inévitablement, on se rend bien compte que l'État, la partie émergée d'une mobilisation politique, ne nous renseigne pas. L'État de la partie émergée d'une mobilisation politique soumise à une dictature militaire de la qualité de celle de Sisi ne nous renseigne pas sur la capacité de mobilisation de ce mouvement. Prenons un tout petit exemple. En Arabie Saoudite, qui est à l'avant-garde de la lutte contre les frères musulmans actuellement, avec les Émirats et avec Sisi, eh bien, le leader d'opinion qui a refusé de condamner les frères musulmans, en l'occurrence le Qatar, et qui a été emprisonné et qui est menacé de mort depuis, il avait 14 millions de followers sur Twitter. Donc, attention, le mouvement n'est pas en mauvaise posture, sa structure organisationnelle est en mauvaise posture, en partie en exil, en partie divisée aussi, il faut le dire. Et l'une de ces divisions, c'était les pro-Morsi et les anti-Morsi. Donc on peut dire de façon un petit peu provocante que le décès de Morsi lève l'un des clivages internes à la société des frères musulmans actuellement, puisqu'il y avait ceux qui étaient très attachés à son héritage et ceux qui pensaient qu'il fallait le dépasser.
Bon, ça c'est pour l'Égypte aussi. Justement, on peut souligner, à contrario, on va dire, du déni de présidentialité qui a été fait par les autorités égyptiennes, c'est que Mohamed Morsi a été loué par un certain nombre de pays, dans un certain nombre de pays. Il y a eu des cérémonies à Istanbul. Erdogan l'a qualifié de martyr. Également, des grandes manifestations en Jordanie, où se trouve le siège des frères musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire de la présence des frères musulmans au Moyen-Orient ? Toujours une bonne emprise, disons ?
Alors, il faut faire la distinction entre leur assise auprès des régimes. Le cas que vous avez souligné de Jordanie, ce n'est pas une manifestation d'adhésion du pouvoir. Ce n'est pas le chef de l'État, ce n'est pas le roi Abdallah, bien sûr, hein, qui a célébré le décès de Morsi. Ça, il faut toujours dissocier la posture des régimes et la posture des opinions publiques. Alors, je dirais que dans les opinions publiques, dans le tissu militant de la société, je reste pour ma part convaincu, mais tout le monde ne partage pas mon point de vue, qu'il demeure à ce jour la principale alternative au régime en place. Et c'est bien pour cela qu'ils sont dans l'œil du cyclone. S'ils étaient, comme voudraient nous laisser entendre Sisi et un certain nombre de régimes, à la fin de leur existence, on se soucierait pas tant que ça de les réprimer. Les frères musulmans sont aujourd'hui dans l'œil du cyclone parce qu'ils ont démontré avec éclat lors des scrutins post-printaniers qu'ils apparaissaient en tête de gondole des formations politiques capables de remettre en cause les régimes au pouvoir aujourd'hui. Donc je pense qu'ils sont à mes yeux la principale alternative à peu près tous les régimes dans la région. Un exemple simplement, l'année dernière, en 2018, dans des pays très différents, l'Irak, la Tunisie, le Liban, dans des configurations totalement différentes, il y a eu 3 élections. Qui est arrivé dans les 3 cas en tête ou qui est-ce qui a manifesté sa centralité? C'est les islamistes. C'est pas ceux dont on nous dit qu'ils sont l'alternative obligée, les libéraux, comme on dit en Arabie Saoudite, ou les éradicateurs, comme on dit, ou les laïcs, comme on dit au Maghreb. Non, dans les 3 cas, je pense qu'on peut raisonnablement penser que ces courants que nous définissons malheureusement de façon un petit peu restrictive, ce qui fait qu'on prend peur en disant ils sont présents, sont véritablement actuellement la principale matrice oppositionnelle dans cette région du monde.
Oui, la raison pour laquelle peut-être également l'Iran regrettait, je cite, une mort malheureuse. En tout cas, on aura l'occasion de reparler de ce mouvement de la rue des frères musulmans au Moyen-Orient. Merci en tout cas pour ces premières explications aujourd'hui. François Burga, je rappelle, politologue, directeur de recherche au CNRS et auteur de « Comprendre l'islam politique à la découverte » en 2016.